Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Les Australiens apprécient la coopération avec la France. Et à ce titre, ils m'ont donné l'occasion de visiter plusieurs centres universitaires afin d'y découvrir des possibilités d'échange et de collaboration. Outre Adélaïde, où j'ai vécu plusieurs fois, et d'autres universités, sont fort intéressantes pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants français. Deux préalables à ce dernier et troisième partage de savoir sur l'Australie. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de Français en Australie. La communauté française est nombreuse, plutôt bien organisée, représentée dans les activités les plus diverses. Contrairement à la contre-publicité de Greenpeace au moment des essais nucléaires français, les Australiens aiment beaucoup la France. Ils y viennent très volontiers. Ils adorent la langue française et les Français. N'oublions pas que les premières explorations maritimes, outre celles de Cook, furent françaises. Il est piquant de se retrouver au Cap Coédic, dans la baie d'Estaing, au phare Borda ou dans l'archipel des îles Bonaparte. Et puis, nous nous affrontons régulièrement au rugby. Donc, la France est plutôt bien accueillie en Australie d'une manière générale. En second lieu, il est important de constater que tous les campus universitaires, je dis bien tous, que j'ai pu parcourir, sont beaux, élégants, paysagers, harmonieux, très bien entretenus, souvent avec une collaboration d'étudiants rémunérés, avec des installations confortables, propres, en bon état, des centres commerciaux, des librairies, des banques, des restaurants, des théâtres et des cinémas, des stades et des salles de sport, des bibliothèques ouvertes tous les jours, 24 heures sur 24. Pour plusieurs villes, du nord au sud, de Perth à Brisbane, de Darwin à Canberra, l'université a été le cœur et la fierté de l'expansion et une contribution à la qualité de l'environnement. Dans ce pays où la classe moyenne est reine, où on travaille dur, l'étudiant est un investissement communautaire. Il représente l'avenir. Il doit donc être bien traité, stimulé et, de son côté, il a l'obligation de remplir son contrat de réussite. Voilà pour le préalable. Je vous parlerai peu de Sydney, que tout le monde connaît, qui a un réseau d'information extrêmement performant. C'est une ville phare, emblématique de l'Australie, avec son opéra, dont elle n'est pas la capitale. C'est un énorme ensemble urbain, le plus vaste du monde, encore plus grand que Los Angeles, et qui a tout, toutes les spécialités de la connaissance, toutes les universités et facultés et centres de recherche que l'on peut souhaiter. La vie est très agréable, très américanisée, assez dure car la concurrence est forte. L'apparence est séduisante, on semble s'amuser beaucoup, passer son temps à Bondi Beach, mais en fait les études y étant très coûteuses, on ne badine pas et la réussite est quasiment obligatoire. Il n'y a pas moins de 11 universités principales qui rassemblent plus de 320 000 étudiants. Les orientations les plus diverses sont offertes et dans le cadre des échanges internationaux, des possibilités de stage et d'apprentissage très intéressantes. L'Université de Sydney, créée en 1852, propose 430 spécialités réparties dans 18 facultés et l'Université de technologie, créée en 1989, propose une recherche de pointe réputée. En 2005, 6 000 étudiants étrangers représentant 110 nationalités y étaient présents. La ville de Melbourne, qui est la capitale de l'État de Victoria, située au sud de l'Australie, est sans doute la plus universitaire et certainement la plus française des villes australes. Elle est très connue des Français depuis les fameux Jeux Olympiques de 1956 où Alain Mimoun s'illustra dans le marathon et elle a récupéré le Grand Prix de Formule 1 d'Australie en le volant à Adélaïde après avoir mis un énorme paquet de dollars australiens sur la table. Ce Grand Prix est d'ailleurs un des événements phares de l'année dans la vie australienne. Avec plus de 3,5 millions d'habitants, c'est la deuxième ville d'Australie, et elle rassemble près de 320 000 étudiants. Il y a toutes les disciplines à Melbourne. L'université de Melbourne, avec 40 000 étudiants, fondée en 1855, c'est la seconde dans le temps des universités australiennes, et qui connaît plus de 60 départements, la Melbourne University, la Trobe, la Monash University, la Swinburne of Technology, Murdoch University, pour ne citer que les plus importantes. Le niveau est très performant. Il y a pas mal de Français dans les disciplines les plus variées, très attachés à cette ville, qu'ils soient chercheurs, étudiants. Je dois dire que tous les étudiants français que j'ai rencontrés ne rêvaient que d'une chose, c'est de retourner à Melbourne une fois que leur stage était terminé. C'est une ville élégante, affairée, certainement plus intellectuelle que Sydney. Le bord de mer est somptueux, la montagne et la neige, les sports d'hiver, notamment à Ballarat, sont très proches. On peut s'y sentir toutefois un peu perdu, même s'il y a un café français qui s'appelle Le Monde, dans le graphisme du fameux journal. Ma préférence va à Canberra, qui est axée très souvent de provincialisme, mais elle présente l'avantage si on souhaite tenter l'aventure australienne tout en étant un peu timide, un peu timoré, un peu affolé d'aller aussi loin, d'être plus convivial, un peu provincial. Sydney et Melbourne se sont disputés pendant plus d'un siècle le titre de capitale fédérale de l'île-continent. Finalement, avec beaucoup de sagesse, en 1901, on décida de créer une ville nouvelle à mi-chemin entre les deux villes qui se concurrençaient. On lui donna un peu bizarrement le nom aborigène de Canberra, un peu bizarrement parce que Canberra veut dire poitrine de femme, ce qui est un peu surprenant dans une époque et dans un monde aussi puritain. La construction et le plan de Canberra, donc, donnèrent lieu à un concours. Les travaux commencèrent seulement en 1913 et la ville commença à être le siège du Parlement et du gouvernement en 1927. Nous fêterons donc le 80e anniversaire de la capitale australienne en 2007. Elle est dotée d'un lac artificiel très grand, niché dans les collines, qui est d'ailleurs également un réservoir d'eau. Elle est peuplée d'environ 300 000 habitants. C'est une ville-jardin, ordonnée selon un plan symétrique que le duc d'Édimbourg, époux de la reine d'Angleterre, qualifia d'absolument sinistre. Elle est dotée d'un des plus jolis campus d'Australie, qui est en fait un jardin botanique. Proche des administrations, des institutions d'État, de toutes les ambassades étrangères, Canberra est idéale pour le management, le droit, l'administration, qu'elle soit centrale ou territoriale, les relations internationales et aussi l'architecture, le design et la médecine. Il y a peu de grands buildings, mais un centre-ville, y a-t-il un centre-ville en fait ? Presque entièrement piétonnier, doté de magasins originaux, de cafés extrêmement drôles. On déjeune généralement dans les restaurants d'hôtels, ce qui est un signe, paraît-il, de sous-développement mondain. Et puis, à Canberra, vous avez le légendaire hôtel Rex, où tous les mauvais garçons et les aventuriers des années 20 et 30 sont passés, notamment illustrés par le cinéma australien. L'Australian National University a été créée en 1946 et elle est des plus cotées dans le tissu universitaire de l'Australie. On y travaille énormément, peut-être parce que la ville est ennuyeuse, je ne sais pas. Et avec 14 000 étudiants originaires de 94 pays différents, elle s'étale dans un campus de 150 hectares. Ses centres de recherche sont prestigieux. Et il faut signaler que cette université de Canberra possède la plus belle et la plus grande bibliothèque du pays, avec 2 millions de volumes. Enfin, il faudrait parler de l'incroyable état du Queensland. Les Australiens eux-mêmes disent que ses habitants ont un grain. Mais je n'en suis pas si sûre. Lorsqu'on prononce le mot Queensland, Brisbane, Cairns, cela évoque immédiatement la grande barrière de corail, le surf, la Gold Coast, les vacances éternelles sous un azur interminable. C'est vrai et c'est faux. Le Queensland est un état champignon qui s'est développé d'une manière foudroyante en 50 ans et qui compte maintenant 3,5 millions d'habitants. Autrement dit, l'ensemble d'un état à la population de Melbourne à peu près. Il y avait beaucoup à faire et il reste encore beaucoup à accomplir, notamment dans le nord de l'état et dans l'arrière-pays. L'état du Queensland a développé une stratégie universitaire très intéressante, à double orientation et qui correspond en continu à la demande du marché du travail. D'une part, il y a une palette très vaste d'études dites courtes, en 2 ans, 3 ans maximum, qui donne une formation véritable et un immédiat débouché. Professions médicales, de services, d'hôtellerie, de restauration, métiers liés à la construction, à la forêt, à la mer, à l'environnement, à l'aménagement du territoire et des côtes. En ce moment, au nord de Cairns, un chantier absolument pharaonique consiste à déplacer des montagnes de sable pour protéger à la fois la grande barrière de corail et les surfeurs dans l'objectif du développement de la station touristique. C'est aussi dans le Queensland que l'on apprend les métiers de police, de garde-côte, de garde forestier, de maintien de l'ordre, d'agent des parcs nationaux, tous métiers qui ont été, il faut bien le dire, très négligés par les Européens, mais qui sont de plus en plus nécessaires. La deuxième branche de l'enseignement dit supérieur est celle des études classiques, longues, dites supérieures, traditionnelles. Pas moins de 9 universités au Queensland, sur les 39 que compte l'Australie. Elles sont toutes jeunes, rassemblant environ, dans leur totalité, un peu plus de 300 000 étudiants. La James Cook contribue au développement de Townsville, qui est une ville nouvelle, et l'Université de Queensland, créée en 1910, propose 380 programmes d'études dans un des plus beaux campus que j'ai vu de ma vie, au cœur de Brisbane, tourner le dos à la mer, dans un parc de 114 hectares. Si vous voulez surfer à la fois sur le web, sur la mer et les études, pour plus de renseignements, faites www.studiesqueensland.qld.edu.au. Le voyage en Australie se termine pour cette fois. Je voudrais conclure sur une des plus belles opérations universitaires de ces 40 dernières années, un nouveau site qui promet beaucoup à la jeunesse face à la violence, à l'inculture, à la bêtise, à l'intolérance, qui promet un avenir éblouissant de savoir et de sérénité. L'État de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire l'État dont Sydney est la capitale, l'Université britannique d'Oxford et l'Université nationale de Singapour ont décidé de créer une nouvelle université internationale, pluridisciplinaire, sur un site nouveau, basé près de l'aéroport de Changi, à Singapour, et qui ouvrira ses portes fin 2007. Cette nouvelle université est financée à la fois par des fonds publics et des fonds privés, des dotations variées. Et en fait, elle est une sorte de ville nouvelle du savoir qui surgit de rien et qui réunira toutes les connaissances modernes, non pas dans une vision verticale de spécialité, mais dans un objectif transversal. Elle offrira des domaines mathématiques, informatiques, commerciaux, des enseignements sur le design, les ingénieries les plus variées, les médias, le droit international, la finance, la banque, la mécanique. Tout cela sera développé dans un environnement idéal dont les arbres sont d'ailleurs déjà plantés. Les semestres seront de 13 semaines, commençant en mars et en août, et il y aura une université d'été de 8 semaines destinée plus spécialement aux étudiants et aux chercheurs étrangers. L'ensemble fonctionnera entièrement en 2009, l'ambition, et je cite, de faire le plus beau et le meilleur campus du monde. Si vous voulez davantage de renseignements, vous faites www.unswasia@unsw.edu.au. Ne pourrait-on envisager une collaboration francophone du même genre, puisque nous sommes aussi pacifiques grâce à la Polynésie ? Ne pourrait-on rêver que l'État français n'imagine une opération identique, disons, avec le Québec, en basant le plus grand et le plus beau campus francophone du monde à Abidjan ou à Dakar ?